Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, bonne année 2019 à vous. Si votre première bonne résolution est de continuer à vous réveiller avec France Culture, c'est formidable. Mais si en plus, vous décidez là, par exemple, de vous abonner une bonne fois pour toutes au podcast de l'émission Le Réveil Culturel, c'est encore mieux. Comme ça, vous serez au courant de l'actualité de la culture pop en France. Tous les lundis, les romans. Tous les mardis, c'est les expos. Le mercredi, c'est bien sûr cinéma. Jeudi, musique. Et vendredi, bande dessinée. En les mercredis, bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Et bonne année à vous.
Et bonne année aux auditeurs.
Alors, avant de parler avec vous des grands événements cinéma attendus en 2019, nous allons faire un bilan de l'année 2018 sous forme des 5 films qui vous ont marqué. C'est bien ça ?
Absolument.
Bon, c'est parti pour le réveil culturel avec toujours Corinne Amard à la coordination et Vincent Abouchard à la réalisation. Ce matin, pour la prise de son, Claude Niort.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Alors attention, c'est pas un top 5, hein. Il n'y a pas d'ordre de préférence dans votre liste des 5 films de 2018, Michel Simon.
Oui, non, c'est vraiment les films qui m'ont marqué, mais déjà c'est difficile d'en choisir 5, alors encore plus de les classer, c'est pas mon genre.
I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me.
Her arrival has cast a very long shadow.
She's barely looked at you this evening, has she?
May I warn you of something? My brother can feel cursed, that love is doomed for him.
I don't like the fabric.
Maybe one day you'll change.
Le premier, on va parler des réalisateurs, c'est Paul Thomas Anderson pour son dernier film.
Alors d'abord, c'est vrai que Paul Thomas Anderson est un immense cinéaste qui a fait déjà des films qui ont beaucoup marqué. Peut-être son plus grand film, c'est le dernier, mais en même temps, c'est difficile là de classer à l'intérieur de son œuvre.
Alors je rappelle que Paul Thomas Anderson, c'est Boogie Nights, c'est Magnolia entre autres.
There Will Be Blood.
Alors surtout, bien sûr.
Et là, c'est Phantom Thread, donc avec Daniel Day-Lewis, qui était déjà dans There Will Be Blood. C'est l'histoire d'un couturier des années 50 à Londres et de son rapport avec une femme qu'il rencontre coup de foudre. Et en général, il quitte les femmes très rapidement. Là, cette fois-ci, celle-ci lui tient tête. C'est une serveuse de restaurant qui se révèle vraiment très très forte devant cet homme méticuleux, maniaque, obsédé du détail, un grand couturier. Alors moi, ce qui me frappe le plus, et d'ailleurs c'est vrai des 5 films que j'ai choisis, c'est la capacité de rendre une histoire en images. Parce que ça a l'air une banalité de dire cela, le cinéma c'est un art d'image, mais la plupart du temps, on ne parle pas des images dans les comptes rendus de films, on ne parle pas de ce qu'il y a sur l'écran, on parle du dialogue, on parle des personnages, des psychologies. Ce sont des films, et celui-ci en particulier, qui sont d'une splendeur visuelle absolument sidérante. C'est-à-dire, dès le début de ce film, on voit un homme monter un escalier, il entre dans un atelier de couture, et on est frappé par, comme chez Max Ophuls, ou comme des très très grands cinéastes, on est frappé déjà par la façon de rendre tactilement, de façon physique, sensorielle, un monde.
Maniaque, obsédé du détail, c'est vrai que ça revenait souvent autour de ce couturier hein, qui est au centre du film de Paul Thomas Anderson. Donc quand le réalisateur est venu parler de son film au micro d'Olivia Gisbert, de la Grande Table, c'était bien sûr la question qu'il fallait lui poser. Est-ce que ce film, c'est pas en creux un autoportrait ? Parce que lui-même, il est particulièrement méticuleux, vous venez de le dire, Michel Simon, voilà ce qu'il répond.
Là, j'aurais du mal à répondre à cette question parce que moi, j'ai l'impression d'être né avec ce désir de créer. J'ai même des notes que j'ai écrites quand j'avais 5 ans, des carnets dans lesquels j'ébauchais déjà des scènes de films. J'écrivais des idées, je m'appelle Paul Thomas Anderson, réalisateur. À 5 ans, j'essayais pas de le faire. J'étais pas en train de compenser une insécurité. Je savais même pas qu'on pouvait gagner sa vie en étant cinéaste. Donc c'est assez curieux, je suis né avec ça et c'est un petit peu curieux C'est comme si quelqu'un a mis sa main sur mon front en disant voilà, tu seras cinéaste, mon fils, ou que sais-je. Ça, bon, pourquoi pas. Franchement, je n'ai jamais eu le choix. C'est l'art qui m'a choisi. Je n'ai jamais eu de métier classique. Je n'ai rien fait d'autre de ma vie que cela.
Voilà.
Oui, Anderson, il aime les personnages un peu comme Orson Welles. Il aime les personnages qu'on dit en anglais bigger than life, plus grand que la vie. Il aime les monstres, il aime des personnages qui vont jusqu'au bout.
Et qui sont habités par une vocation, parce que là, il dit, je suis habité par une vocation, je ne sais pas faire d'autre chose que de réaliser des films. Il les réalise vraiment bien.
Et là, c'est ce personnage, admirablement interprété, comme d'habitude, par Daniel Day-Lewis. C'est un personnage qui veut exercer un contrôle, pas seulement sur son métier, mais sur les femmes aussi. Et il trouve plus fort que lui. C'est-à-dire, il trouve une femme capable, effectivement, qui va même, je ne vais pas dévoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, qui va même aller vers des actes extrêmes pour tester un peu cet homme qui essaye de la dominer. Et je trouve que c'est un film inoubliable.
Autre film qui vous a marqué, Michel Simon, en 2018, c'est le film sud-coréen réalisé, écrit d'ailleurs, réalisé par Lee Chang-dong, d'après une nouvelle de Murakami et surtout sous influence de Faulkner.
벤이라고 합니다.
혹시 무슨 일 하시는지 물어봐도 돼요?
간단히 말하면 그냥 노는 거예요.
저 사람이 너 왜 만나는 것 같아? 그거에 대해서 생각해 본 적 있어?
Burning, donc c'est le titre du film, une adaptation de la nouvelle Les Granges Brûlées de Murakami, lointainement inspirée de L'Incendiaire de Faulkner, mais il faut surtout pas tenir compte de ces deux grandes références littéraires, puisqu'on est dans un film qui nous parle surtout d'aujourd'hui et de la Corée du Sud, ou des deux Corées d'ailleurs. Michel Simon.
Oui, alors d'abord, il faut dire que Lee Jang-dong fait un film tous les 6 ou 7 ans, contrairement à certains de ses compatriotes qui font 3 films par an, et ça vaut la peine parfois d'attendre, pour faire un grand film, il faut parfois du temps. Et ce film, évidemment, est inspiré de Murakami et de Faulkner, mais surtout, pour moi, il rappelle le grand cinéma des années 60, c'est-à-dire on pense à Antonioni, par exemple, par le sens des paysages, par l'utilisation du thriller, parce que c'est une sorte de film policier, puisque l'héroïne disparaît.
Oui, une femme disparaît,
Une femme disparaît, elle avait une histoire d'amour avec un homme, un jeune garçon, et puis finalement, elle part en voyage et elle revient avec un autre homme. Et voilà, une sorte de, pas de ménage à trois, mais de rapport triangulaire. Et puis ensuite, au bout de la moitié du film, elle disparaît complètement. Et on a cette confrontation, un peu lutte des classe entre un jeune garçon sans le sou et puis un playboy qui allume les granges, qui crée des incendies, etc. Donc c'est un film là aussi d'une très très visuelle. Par exemple, il y a une scène inoubliable où la jeune femme, par exemple, danse au crépuscule sous les regards de ces deux hommes, et c'est une scène absolument magique. Et Lee Jang-dong, il a déjà fait des grands films qui ont eu des prix à Cannes. Cette année, comme d'autres films, parmi les plus beaux de Cannes, n'a reçu aucune récompense par un jury particulièrement incompétent. Et ce film aurait mérité, évidemment, sans doute, tout le monde s'y accordait la Palme d'Or, il n'a rien eu, mais c'est un film marquant.
D'autant plus qu'il nous raconte un peu le monde d'aujourd'hui, sur les territoires qui sont très proches, mais où il y a des vraies barrières. Alors je dis pas ça uniquement parce que le film se déroule à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais il y a aussi deux mondes qui vont se côtoyer sans jamais se comprendre, le monde des pauvres ruraux et des bourgeois citadins.
Voilà, c'est cette opposition entre ces deux hommes qui sont également entourés de mystères, parce que c'est un film très mystérieux. C'est ça qui est très beau, c'est-à-dire qu'il donne pas de réponse. Pourquoi cette femme disparaît? On va le savoir probablement à la fin, on va le supposer, mais je ne veux pas non plus dévoiler. Il y a un mystère sur le comportement de ces deux hommes, en particulier de l'homme riche, de ce playboy qui roule dans une splendide voiture, etc., et qui a commis des actes criminels.
Ou pas, on n'en sait rien en
voilà,
réalité.
Voilà, c'est un film très... très mystérieux, et je pense que Lee Jang-dong, qui avait fait Poetry en particulier, qui est un film magnifique aussi, est un immense cinéaste, un des plus grands d'aujourd'hui.
Et après Paul Thomas Anderson, c'est-à-dire les États-Unis, après la Corée du Sud avec Lee Chang-dong, on se dirige avec votre troisième choix pour les cinq films marquants de 2018, Michel Simon. On se dirige vers un pays qui n'est pas très connu dans la carte internationale du cinéma. C'est alors qu'ils ont une production, mais très peu de cinéma de qualité. Mais là, vous dites que ce cinéaste turc est un cinéaste à suivre et vous voulez défendre Le Poirier Sauvage, le dernier de ses films à être présenté à Cannes. Il s'agit de...
Nuri Bilge Ceylan. Ouais. Ceylan, ça s'écrit comme l'île de Ceylan, C-E-Y-L-A-N.
Ah oui, parce que c'est... Voilà, chacun voilà, le prononce comme il veut, mais je pense que vous avez la bonne prononciation parce que vous avez eu l'occasion de rencontrer oui. à plusieurs reprises.
Oui, depuis ses débuts, enfin il y a 20 ans, je pense que c'est lui aussi un des très très grands cinéastes d'aujourd'hui. Lui aussi était à Cannes, il avait eu la Palme d'Or avec Winter Sleep, quand Jane Campion, qui s'y connaît en cinéma, lui avait donné la Palme d'Or. Cette année, avec Cate Blanchett, c'était beaucoup plus discutable puisque lui non plus n'a rien eu, alors que mondialement, le film a été salué comme un chef-d'œuvre à nouveau.
Mondialement salué.
Mais oui,
ce film a été projeté à la fin du festival. Oui, mais... Il fait plus de 3 heures. J'ai vu beaucoup de gens dormir, moi, pendant la
c'est
la projection.
C'est possible. Il y a des gens qui s'endorment aussi à Guerre et Paix de Tolstoï parce que ça fait 1500 pages. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est impatient, très impatient. Il y a des livres pour le prix Goncourt qui n'ont pas le prix Goncourt parce que les jurés n'ont pas voulu lire plus de 1000 pages. Donc, Tolstoï aurait été éliminé et Dostoïevski probablement aussi pour le Goncourt. Voilà. Donc, je pense que je sais ce que je dis quand je dis que c'est mondialement parce que j'ai lu les journaux italiens, américains, anglais et tous ont reconnu que c'était un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre d'abord parce que là aussi, Nuri Bilge Ceylan est un très grand photographe. Par ailleurs, il a des expositions de photos magnifiques. Il y a une façon de filmer les paysages turcs qui est d'un lyrisme absolument magnifique. Et c'est un très beau film sur un récit d'initiation, puisque c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit d'ailleurs dans une région proche de la frontière, et qui veut devenir un écrivain. Et c'est son rapport avec son père, qui lui est un ivrogne, qui ruine sa famille, qui est un instituteur qui n'arrête pas de jouer aux courses. Son rapport avec son père, son rapport avec sa mère, son rapport avec les écrivains, l'écrivain local. Et tout cela, en 3 heures, c'est fascinant, là aussi, d'humour, de violence, d'attention aux détails. Et il y a par exemple une scène avec une jeune fille dont il est amoureux, qui est une scène magique, sous un arbre, sous un poirier sauvage, probablement, qui est renversant. Donc je pense que pour beaucoup de gens, c'est un très très grand cinéaste, qui n'a peut-être pas évidemment la carrière universelle de certains cinémas français ou hollywoodiens, mais ça ne veut rien dire.
On continue à faire le tour du monde et en 4e position, on est au Mexique avec le dernier film d'Alfonso Cuarón, c'est-à-dire le réalisateur de Gravity qui l'a avec son dernier film qu'on peut voir depuis quelques jours via une plateforme
Netflix.
Revient à son pays d'origine, c'est-à-dire le Mexique. Ça s'appelle donc Roma, Michel Simon.
Oui, alors on sait que Cuarón est très versatile, il a fait Les Fils de l'Homme, vous l'avez cité aussi pour son précédent film Gravity, un film de science-fiction, donc c'est un homme qui change, c'est pour ça qu'il a fait carrière aux États-Unis parce qu'il est capable de faire des films extrêmement différents, comme le cinéma américain en général. Cette fois-ci, il est revenu à ses racines, c'est-à-dire qu'il a fait un film autobiographique sur son enfance en 1971 à Mexico, dans un quartier qui s'appelle Roma, qui est d'ailleurs l'anagramme de Amor. C'est un film... magnifique, là aussi, en noir et blanc, en scope, en écran large, dont il a écrit le scénario, fait la photographie, fait le montage et mis en scène.
Mais vous êtes un privilégié, Michel Simon, vous l'avez découvert dans un festival de cinéma de renommée mondiale, c'est-à-dire le festival de Venise, où il a été projeté sur grand écran, mais il n'est pas distribué en salle en France, on peut le dire.
Non, il a été montré au festival de Lyon, Lumière. Moi, quand je l'ai vu à Venise, je suis sorti de la salle, j'ai tout de suite mis 5 étoiles dans le journal du festival, parce que je pensais que c'était un chef-d'œuvre, et le jury lui a donné à l'unanimité le Lion d'Or. C'est un film magnifique, là aussi, à la fois d'une virtuosité extraordinaire, avec des plans séquences. Par exemple, il y a une scène d'émeute étudiante à Mexico avec la répression de la police qui est magistralement tournée. Il y a deux enfants qui vont se noyer et on voit, c'est vu à travers la femme de ménage, la bonne de la maison, de la maisonnée. Tout est vu à travers son regard et qui est abandonnée par un homme qui la met enceinte et qui la laisse tomber. Et elle s'avance dans les flots, on sait qu'elle ne sait pas nager et on la voit avancer dans la mer, mais on ne voit pas les enfants, donc on ne sait pas à quelle distance elle est des enfants. Est-ce que les enfants sont en train de se noyer? Est-ce qu'elle va les sauver? C'est absolument magistral parce que c'est à la fois un grand exercice de mise en scène, mais en même temps d'une très grande sobriété. C'est-à-dire, c'est pas du tout une mise en scène qui tape à l'œil du tout, mais c'est réglé au métronome par un très grand cinéaste, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'émotion. Et je pense qu'il a réussi un des grands films sur l'enfance. Il y a eu plusieurs films, il y a eu Les 400 coups, il y a eu L'enfance d'Ivan, il y a eu plusieurs films sur l'enfance, même des metteurs en scène parfois, Hope and Glory de Bourman. Je pense que c'est un des chefs-d'œuvre du récit autobiographique de l'enfance.
Et puis enfin, on va terminer avec vous, Michel Simon, ce top 5, en quelque sorte, des meilleurs films 2018, selon vous, en explorant un territoire aussi peu connu dans la cinématographie mondiale, une partie de la Russie, une partie bien précise de la Russie, et cette fois-ci, dans la Grande Russie d'ailleurs, et cette fois-ci avec un premier film, c'est-à-dire Tesnota de Kantemir Balagov.
Oui, d'abord, ça me fait plaisir de choisir aussi un premier film. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour le cinéma. C'est pas seulement des gens consacrés. J'ai été saisi par ce film qui a été montré à un certain regard l'année dernière, en fait, même l'année d'avant.
L'année d'avant, puisque cette année, il était membre du jury pour le certain regard, Kantemir Balagov.
Le film est sorti en 2018, c'est pour ça qu'il est dans cette liste. C'est un film qui se passe dans le nord du Caucase, filmé par quelqu'un qui avait 25 ans, 24 ans, donc très jeune. Là aussi, visuellement époustouflant. Et c'est une histoire d'un kidnapping dans la communauté juive, une communauté juive du nord du Caucase, le kidnapping d'un jeune garçon et de sa fiancée qui allait se marier par des Tchétchènes probablement, ou en tout cas par des musulmans terroristes. Et la sœur du personnage essaye de rassembler de l'argent, c'est pas facile, pour essayer de payer la rançon. Et c'est un film qui est l'exploration à la fois des rapports de famille, de ces plusieurs communautés qui coexistent dans ce village, et c'est fait avec une inspiration visuelle là aussi.
Et surtout, il rappelle toute la complexité qu'il y a dans cette région avec toutes ces populations. Oui, parce que ce sont pas juste des mauvais musulmans qui sont antisémites.
Non, pas du tout.
Toute la subtilité est de montrer que rien n'est simple, et c'est aussi un film d'un Russe qui est né avec le conflit tchétchène. Il a été marqué par le conflit tchétchène. Il racontait justement dans ses interviews que lorsqu'il était à l'école, les gens venaient commenter les vidéos d'exactions des terroristes tchétchènes.
Et ce qui me frappe dans cette liste, si je peux dire, ça m'a surpris une fois que j'ai réfléchi à cette liste, c'est que tous ces films sont ouverts sur le monde. C'est-à-dire, ils parlent tous, non pas bêtement, de façon manichéenne, de politique, mais ils sont tous marqués par les rapports de classe, ils sont tous marqués par la répression, par exemple, au Mexique, ils sont marqués par, dans le film de Lee Jang-dong aussi, le pauvre et le plus riche, etc. Donc c'est des films qui sont ouverts et pas seulement repliés sur des petites histoires un peu parisiennes, comme on en trouve malheureusement trop souvent dans le cinéma français.
Et comment va la mondialisation dans le cinéma, Michel Simon? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui une standardisation des films?
Oui, mais je pense que moi, ce qui m'importe, c'est qu'il reste des films magnifiques. Il reste vraiment de la créativité et que c'est international. Cette liste reflète aussi, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma il y a un demi-siècle, il y avait quelques grands pays producteurs. Aujourd'hui, dans cette liste, il y a tout de même la Corée du Sud, il y a le Caucase, enfin bon, c'est la Russie, mais c'est des films très... Il y a le Mexique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le talent, ou la Turquie, le talent naît un peu partout.
Alors, Tesnota de Kantemir Balagov, si vous avez l'occasion de voir ce premier film, par n'importe quel moyen, c'est-à-dire en passant par les plateformes, en essayant de trouver le DVD, n'hésitez surtout pas. Comme vient de le dire Michel Simon, c'est un incroyable premier film. Et quand Emir Balagov, vous pouvez en dire quelques mots, Michel Simon, puisque vous l'avez rencontré, vous avez discuté avec lui.
Oui, j'ai discuté avec lui pas très longtemps. C'est quelqu'un qui a vraiment la, comme beaucoup de grands artistes, il est très jeune, il a la tête sur les épaules, il frime pas du tout, il est pas comme ces gens qui ont fait un court-métrage qui pensent qu'ils sont déjà géniaux. Il écoute, il partage et je soupçonne qu'il va être un grand cinéaste. Il l'est déjà, mais qu'il va continuer à être un grand cinéaste.
That's what I got. You turn the heat on me. Some like it hot. Look what you started. A conflagration, baby, that's what. Don't let the flame go out. Some like it hot.
Some like it hot, certains l'aiment chaud. Alors quoi de neuf en 2019 sur le front cinéma? Et ben d'abord cette grande rétrospective Billy Wilder qui commence demain avec justement la projection du film Certains l'aiment chaud. Et puis ce samedi 5 janvier à 19h30, le film Le gouffre aux chimères de Billy Wilder, bien sûr, toujours dans le cadre de cette rétrospective à la Cinémathèque, sera présenté par vous, Michel Simon.
Oui, avec un débat sur Wilder, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup connu Billy Wilder. J'ai fait avec Annie Trégo un documentaire sur lui, un homme parfait à 60%. C'est la définition qu'il donnait de lui-même, et que c'est un cinéaste qui savait aussi bien faire la comédie que le drame. Le Gouffre aux Chimères est un film assez extraordinaire qui a été un échec commercial dramatique et qui l'a orienté vers la comédie, parce qu'il avait vraiment jeté du vinaigre à la face des spectateurs américains qui n'ont pas supporté cette dénonciation.
Et un film à voir à l'heure des chaînes d'infos en continu, de comment on peut raconter des histoires pour avoir le maximum d'audimat. C'est le sujet du film.
Absolument.
Alors, quels sont les grands événements qui nous attendent en 2019, cher Michel Simon? Et vous allez sans doute nous donner le sommaire de positif, puisque vous avez fait un numéro où vous avez noté tout ce qu'il ne fallait surtout pas rater cette année.
Déjà, ça commence en fanfare, puisque le 9 janvier, il y a un film de près de 4 heures, un film chinois de Hu Bo, An Elephant Sitting Still, qui a eu le prix de la critique internationale à Berlin, qui est une sorte de film labyrinthique sur la Chine d'aujourd'hui, qui ressemble à un roman de Dostoïevski ou de Vargas Llosa, avec une vision extrêmement sombre de la Chine, qui est réalisé par un homme qui s'est suicidé juste après avoir terminé son film, à 28 ans. C'était son premier film. Et là, on peut dire qu'on est en train de voir un film prodigieux en se disant qu'est-ce qu'il serait devenu. C'est vraiment tragique. Et il faudra voir ce film. C'est une des vedettes de ce numéro de janvier. Et la couverture, c'est un film tout aussi stupéfiant d'un Iranien qui vit au Danemark et en Suède, qui s'appelle Border, qui a eu le grand prix Un certain regard à Cannes, qui est un film fantastique. Est-ce que c'est un polar féministe, comme on essaye de le définir? Une fable sociale sur les minorités? Un conte nordique? C'est l'histoire d'une femme qui est préposée à la douane de l'aéroport, qui a un odorat extraordinairement développé qui lui permet de détecter les gens qui passent en fraude des choses.
Et un physique très ingrat, c'est le moins que l'on puisse
dire. Un physique, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement ingrat, alors que l'actrice qui le joue est une beauté suédoise absolument sublime, mais elle est maquillée de façon extraordinaire, et elle rencontre une âme sœur, et on découvre la part d'animalité qu'il y a en l'homme, car ce sont en fait des transgenres.
N'en dites pas plus, Michel.
Voilà,
Simon.
Mais en tout cas, c'est un film extraordinairement impressionnant dans le domaine du fantastique. Et puis, troisième vedette, Louis Garrel pour son deuxième film, L'homme fidèle. Ça me plaît que l'un soit un deuxième, les deux sont des deuxièmes films, Border et L'homme fidèle, et qu'Un éléphant c'est textile est un film unique, premier mais seul. Ça veut dire que là encore, le cinéma a de l'avenir. Et puis, on attend évidemment d'autres films, le film de Clint Eastwood, qui va être là en janvier, et puis bien d'autres films, mais on ne peut pas savoir. Je peux signaler déjà, parce que j'ai eu la chance de le voir, ce qui sera sûrement un des grands films français de l'année, c'est le nouveau film de François Ozon, sur l'église de Lyon et sur la pédophilie dans l'église de Lyon. Mais c'est plus qu'un film sur la pédophilie, c'est vraiment trois hommes qui révèlent le viol de leur enfance et qui sont à tour de rôle les personnages principaux de ce film. Donc il y a une structure narrative extrêmement originale et Ozon vient de signer un de ses plus grands films.
Merci Michel Simon. Nous, on continue à nous voir, à nous parler et surtout, vous venez quand vous voulez dans le Réveil culturel. Merci beaucoup.
Merci.